Bonjour à tous, c'est le mug numéro 9. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2019 et on va commencer l'émission tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous m'entendez bien et je suis ravie de vous retrouver à ceux qui sont en live et ceux qui nous regardent en replay. J'ai l'impression que ma connexion ce matin est pas top, que vous me voyez peut-être un peu flou. En tout cas, moi j'ai un retour d'image assez bas en termes de qualité, mais tant que vous pouvez m'entendre, on va dire que c'est le principal. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Non, image 5 sur 5 pour moi. Bon, ben très bien, écoutez, tant mieux, tout va bien. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec la première actualité. On a quand même aujourd'hui un programme assez chargé, comme je les aime, avec une diversité de news assez intéressante. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite et on va commencer avec des nouvelles de la société WeWork. WeWork qui avait donc lancé cette véritable révolution de bureaux à partager hein, à l'échelle internationale. Ils sont présents notamment à Paris hein, et dont dernièrement les pratiques comptables ont été un peu controversées et qui va devoir potentiellement repousser son introduction en bourse parce qu'ils avaient prévu de faire une introduction en bourse de WeWork et finalement ils vont devoir repousser. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Il y a des difficultés, hein. WeWork fait face à certaines difficultés, notamment à apaiser des craintes concernant leur modèle économique et également sa gouvernance par le CEO Adam Neumann. Elle a notamment annoncé une série de mesures hein, très très récemment pour rassurer sur la gouvernance de WeWork, notamment en réduisant l'influence du CEO Adam Neumann qui a aussi annoncé qu'il allait se retirer et laisser la place à quelqu'un d'autre pour être CEO et qui allait notamment réduire le nombre de votes attachés à Adam Neumann pour qu'il ait un peu moins de pouvoir sur la société. Et également une autre condition pour rassurer sur la gouvernance de la boîte, c'était notamment qu'aucun membre de sa famille ne fasse partie du conseil d'administration. À savoir que sa femme, qui est la cousine de Gwyneth Paltrow, moment people, était également à la tête de la boîte, et notamment cofondatrice et responsable de la marque, entre autres. Et elle s'appelle Rebecca Neumann, justement. Outre la gouvernance, un autre point, c'est que les marchés s'interrogent également sur la capacité de WeWork à gagner assez d'argent ou de l'argent assez rapidement. La société a essuyé une perte de 1,9 milliard de dollars l'an dernier et elle présentait un déficit de 690 millions au premier semestre de l'année en cours. Et c'est à peu près à chaque dollar gagné, ils doivent dépenser 1 dollar également. Donc en termes de rentrée d'argent, c'est quand même assez compliqué. Donc WeWork, voilà, dans une situation un peu compliquée et je vous renvoie là-dessus si vous souhaitez en savoir plus, notamment un article de The Verge qui a été parfaitement, qui a très très bien résumé la situation et qui a un ton assez cynique. C'est très très sympa à lire, moi ça m'a fait beaucoup beaucoup sourire. Alors, je vous ai dit en effet que du coup, Adam Neumann n'allait plus être le CEO de la compagnie WeWork, qui a été renommé The We Company, hein, pour suivre un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, il va plus être le CEO, mais il va quand même rester le président hein, de la boîte. D'un aspect non exécutif, mais il va rester président de la boîte. Voilà, donc Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus que je ne vous ai pas déjà dit? Donc, en effet, lorsqu'ils ont prévu de faire leur entrée en bourse, vous savez que pour faire une entrée en bourse, il faut rédiger tout un tas de papiers et être assez, montrer patte blanche et être assez transparent sur les process de la société, la gouvernance, la manière dont ils font de l'argent, la santé financière de la boîte, etc. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est aperçu de choses assez louches, notamment sur la gouvernance et notamment sur l'attitude du CEO. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a dévoilé certaines choses, certaines pratiques assez louches du genre que le CEO, donc Adam Newman, était en train de louer ses propres bâtiments, puisque vous savez, c'était les bureaux à partager, hein, WeWork, louer ses propres bâtiments à la We Company. Et il avait notamment sécurisé des prêts de la We Company en échange du nom The We Company pour faire le changement de WeWork à The We Company. Et donc du coup, la société We, précédemment WeWork, a payé Adam Newman pour récupérer le nom. Donc en fait, à quoi ça ressemble? Tout simplement, ça ressemble à un CEO qui se fait de l'argent sur le dos de sa société. Et donc, c'est un petit peu compliqué comme pratique. Enfin, c'est pas vraiment accepté, quoi. C'est un peu arnaquer tout le monde. Et de plus, en plus de ces pratiques très douteuses de louer les propres bâtiments à sa propre société et de faire acheter le nom à sa propre société à soi-même, il avait aussi un comportement assez louche, hein, c'est ce que je vous ai dit. Notamment, il était connu pour fumer de la beuh sur un jet privé des États-Unis à Israël. Il avait... virer 7% du staff, il avait fait flipper, enfin il a fait peur au propriétaire de l'avion qu'il avait utilisé, enfin voilà, des débordements sa propre attitude, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, Adam Newman est donc dans le process de se retirer de WeWork ou de The We Company et de réduire son influence et son pouvoir sur la société, et là-dessus il a cédé hein, la majorité du contrôle de la société et notamment ses super votes hein, puisqu'il avait le pouvoir d'avoir 20 votes qui est contre un vote pour les autres. Et donc, du coup, maintenant, c'est passé de 20 votes en termes de pouvoir à 3 votes, ce qui est quand même beaucoup plus équilibré. Voilà, donc il n'a plus non plus le pouvoir de virer le board. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et il a également remboursé les 5,9 millions de dollars qu'il avait fait sur le dos de sa propre société quand la société avait racheté le nom The We Company. Voilà, donc on peut reconnaître qu'ils ont fait des efforts, qu'il a fait des efforts pour rétablir un petit peu un équilibre et en effet répondre aux craintes suite à cette rumeur de rentrer en bourse. C'était pas une rumeur parce qu'en fait ils ont quand même communiqué les papiers. Mais ce qui est quand même assez étrange, c'est que justement ils aient songé à entrer en bourse et qu'ils savaient que du coup ces casseroles allaient être communiquées et ils se sont pas dit ça va poser problème pour l'entrée en bourse quoi. Ça va pas inquiéter les investisseurs, ça va pas. Voilà, c'est quand même assez assez étrange comme démarche quoi. Et en plus, ce qui est quand même assez assez rigolo, et c'est là où je vous disais que l'article de The Verge était assez cynique, notamment sur le CEO Adam Newman et la personnalité d'entrepreneur, c'est que ces différents tentatives de business incluaient notamment des talons collapsables, rétractables pour les femmes. C'est pas du tout misogyne. Et puis, on avait également des habits pour bébés avec des espèces de renforcements aux genoux, avec l'accroche. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous le disent pas que ça ne fait pas mal. Et parce que quand les bébés, quand vous avez des bébés, bah, en fait, ils rampent par terre et donc ils ont potentiellement les genoux qui sont blessés. Enfin, c'est très, très bizarre. Voilà. Donc, on peut se poser la question un petit peu sur le bon jugement de la personnalité d'Adam Newman, et c'est pas forcément très très rassurant pour les investisseurs. Il est en effet tristement célèbre un peu pour ça. Maintenant, il paraît que la société est en train de considérer de potentiellement virer jusqu'à 5000 employés. Tout ça aussi parce qu'il y a des problèmes de profitabilité. Hein. C'est ce que je vous disais notamment tout à l'heure. WeWork a réalisé 1,8 milliard de revenus l'année dernière. Mais ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que la société a quand même perdu 1,6 milliard de dollars dans le même temps. Donc voilà. Et là, dans la première moitié de 2019, c'est ce que je vous disais, la société a dépensé 1 dollar pour chaque dollar gagné. Généré. Donc voilà, on n'y est pas encore sur la profitabilité. Mais là où c'est un petit peu plus, où il faut aussi prendre du recul, c'est notamment sur les investisseurs, notamment SoftBank, avec le fondateur Masayoshi Son, qui était au courant des déboires et de la réputation de Adam Newman. Donc là, on peut se questionner sur pourquoi ils n'ont pas essayé d'avoir plus de pouvoir sur la société et de rétablir l'équilibre. Alors, je ne m'y connais pas hein, entre relations investisseurs, CEO, etc. Je ne suis vraiment pas une experte sur le sujet. Mais en tout cas, ils étaient déjà au courant des frasques du CEO, ça, c'est certain, et ils étaient également au courant de la situation financière de la société. Hein. Ça, c'est pas une nouvelle non plus. Et on se demande un petit peu pourquoi, voilà, WeWork a voulu se rebrander WeCompany, pourquoi ils ont voulu lancer une entrée en bourse, etc. Et en fait, ça pourrait aussi venir notamment d'une rencontre en 2017 de justement Son Masayoshi qui avait discuté avec Newman et qui avait notamment dit qu'il voulait faire de WeWork quelque chose de 10 fois plus grand que le plan originel et que dans un combat, il vaut mieux être fou que bon et intelligent et c'est ça qui marche le mieux et que WeWork n'était pas encore assez fou, assez crazy, c'est ce qu'il disait, dans sa démarche. Et donc du coup, on peut se demander si c'est pas quelque chose justement qui a encouragé les démarches du CEO Adam Newman pour changer notamment le branding et vouloir faire ce genre d'entrée en bourse, etc. Mais ça reste quand même quelque chose sur lequel on peut s'interroger hein, sur la démarche. C'est quand même assez étonnant qu'une société avec une profitabilité et un état financier tel et des doutes tels sur la gouvernance de la boîte, c'est quand même assez étonnant qu'ils se sont dit ok, on va essayer d'entrer en bourse et communiquer sur qu'est-ce qui se passe chez WeWork. Je pense qu'ils auraient peut-être dû clarifier un peu plus la situation et anticiper ce genre de démarche, mais en effet, c'est assez dingue, assez dingue. Voilà pour l'histoire de WeWork. J'espère que ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, hein, parce que il y a pas mal d'articles qui sont tombés et c'est pas forcément évident de comprendre ce qui se passe, quoi. Moi, j'étais assez loin de l'histoire de WeWork et du coup, j'ai un peu appris ça ce matin. On continue avec un autre vilain, et là, cette fois-ci, la victime, c'est Snapchat, et le vilain, c'est Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas mal de fois hein, qu'on vous parle dans le mug de la bataille et du duel entre Snapchat, Facebook, Instagram, qui copie les fonctionnalités et qui fonctionne hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, Snapchat a formé un dossier, une masse de documents à la Federal Trade Commission, la FTC aux États-Unis, et qui décrit en détail l'opération Voldemort. Qu'est-ce que c'est l'opération Voldemort? Alors ça, ça a été nommé par Snapchat, hein, et ça fait évidemment référence au grand vilain de la saga Harry Potter, hein, la saga de roman anglais Harry Potter. Et c'est quoi cette opération Voldemort? Ben, ce sont des efforts déployés par Facebook pour étouffer les activités de Snapchat. Voilà, et donc tenter de déstabiliser et de heurter le business et le marché de Snapchat. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Il y a plusieurs raisons. Alors voilà, il y a différents points, notamment Snapchat accuse Facebook d'empêcher les contenus liés à Snapchat d'être affichés sur la page Explorer d'Instagram. Voilà, vous savez que Facebook, la manière dont ils sont en compétition avec Snapchat, c'est Instagram, hein, qui appartient à la société Facebook. Et donc du coup, empêcher Instagram de faire remonter les résultats qui ont un lien de près ou de loin à Snapchat, ça permettrait d'étouffer, entre guillemets, le réseau social Snapchat. Il bloquerait également la recherche de termes liés à l'application Snapchat également. Il y a aussi une autre information. Ils indiquent notamment qu'Instagram a menacé de retirer le statut vérifié des utilisateurs d'Instagram s'ils affichaient des liens Snapchat sur leur profil. Et en effet, en 2016, Instagram a interdit aux utilisateurs de le faire, c'est-à-dire de mettre en place les liens Snapchat sur leur profil Instagram. Encore une fois, c'est pour limiter la présence, évidemment, du réseau social concurrent Snapchat sur la plateforme Instagram. Il y a également la notion de Instagram qui a copié de nombreuses fonctionnalités de Snapchat. Ça fait longtemps qu'on vous en parle. Et Snapchat, c'est pas non plus la seule cible. Hein. C'est également Foursquare, à savoir que Snapchat et Foursquare, hein, Facebook avait tenté de les acheter sans succès. Et en effet, l'accusation porte sur le fait que quand Facebook n'arrive pas à acheter une société, a priori, il se mettrait en tête de copier les fonctionnalités. En tant que tel, j'ai envie de dire, c'est logique. Je suis pas particulièrement choquée par cette pratique. En effet, acheter une boîte, ça permettrait notamment d'aller plus vite sur développer certaines fonctionnalités ou développer une partie du business d'un produit. Mais si on ne peut pas l'acheter, ça n'empêche pas la société qui n'a pas réussi à acheter de développer soi-même les fonctionnalités. On ne va pas lui en vouloir là-dessus. Après, il faut voir dans quelle mesure c'est vraiment copié ou pas. C'est assez compliqué de dresser une ligne claire et très délimité là. Je pense que là, ça va être assez compliqué. Donc, on n'a pas de réaction hein, pour l'instant de Facebook et Snapchat suite à cette communication, hein, suite à ce rapport de projet Voldemort communiqué par Snapchat à la FTC. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que depuis récemment, il y a 4 enquêtes antitrust distinctes. Ça, c'est important, dont celles menées par la FTC, hein, la Federal Trade Commission, qui sont en cours pour Facebook. Donc, on a le ministère de la Justice, on a le Congrès et un groupe bipartite de procureurs généraux qui enquêtent chacun sur l'entreprise Facebook. Donc voilà, il y a quand même une vraie inquiétude hein, sur l'anti-compétitivité potentielle de Facebook et son monopole sur le marché. Donc ça, c'est en train d'être analysé de manière assez scrupuleuse par ces quatre enquêtes antitrust distinctes. Voilà. Vu de loin, ces batailles entre réseaux me font bien sourire. Reste à voir les conséquences sur les utilisateurs. Oui, bah c'est aussi pour assurer aux utilisateurs, et merci Mister Tropicana pour soulever le point, c'est aussi pour assurer aux utilisateurs d'avoir le choix entre les services et d'éviter à un service d'étouffer la concurrence. Et du coup, d'avoir un vrai monopole et donc de garder captif des utilisateurs puisqu'il n'y a pas d'autres alternatives sur le marché. Donc c'est vraiment aussi, tu vois, ces enquêtes, c'est intéressant et ça va aussi dans la démarche de s'assurer que les utilisateurs sont protégés, entre guillemets. Voilà. Voilà en tout cas pour l'autre grand méchant, donc Facebook et Snapchat. À savoir, aujourd'hui, ça marque quand même un jour important pour les possesseurs d'iPhone, iPad, d'Apple TV, etc. Pourquoi? Tout simplement, eh ben, les mises à jour sont disponibles. Et oui, la nouvelle mise à jour, beaucoup plus stable, iOS 13.1, est disponible dès maintenant. Hein. Je vous conseille d'ailleurs de mettre à jour. N'oubliez pas de faire vos sauvegardes avant. Hein, pour pas avoir de mauvaises surprises et ça va fixer pas mal de bugs. Mais non seulement il y a iOS 13.1, mais comme je le disais, iPadOS est disponible. J'ai mis ce matin mon iPad à jour et je suis déjà ravie. Et il y a également tvOS, tvOS qui est disponible et voilà, qui font passer chacune, donc iPadOS, tvOS passe également en 13.1. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc iOS 13.1 à savoir est compatible avec les iPhone 6S et plus tard les iPhone SE ou la 7e génération d'iPod Touch. Voilà, iPadOS lui est compatible avec n'importe quel iPad, l'iPad mini, l'iPad Pro qui était d'ailleurs l'iPad Pro qui a été lancé en 2014 ou après. tvOS, lui, est compatible avec n'importe quel Apple TV qui peut faire tourner tvOS 12. Donc, pas de surprise, tous ceux qui sont sur tvOS 12, vous pourrez tranquillement mettre à jour avec tvOS 13.1. Information majeure quand même à retenir avec ces mises à jour, notamment pour iPadOS et tvOS, c'est qu'en fait, ça marque la mise à disposition tout simplement de Apple Arcade, la plateforme de jeux mise à disposition par Apple. Elle est disponible depuis votre App Store. Ça y est, moi j'ai l'onglet. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, vous voyez, donc c'est l'App Store. Hein, vous pouvez retrouver les onglets tout en bas. Aujourd'hui, jeux, app, arcade et rechercher pour chercher vos apps. Et vous pouvez voir donc justement la petite vidéo de démonstration qui fait une démonstration très sympa de différents jeux disponibles sur Apple Arcade et qui vous dit jouer en illimité, gratuit pendant un mois. Et là, vous avez évidemment un gros bouton d'action qui vous encourage à démarrer l'essai gratuit. Donc, il vous informe également que le service est déjà disponible sur iPhone, iPad et Apple TV et bientôt sur Mac. Pour rappel, le prix hein, de Apple Arcade après le mois gratuit sera de 4,99€ par mois. Et puis après, en dessous, tout simplement, vous avez du coup la liste hein, de jeux disponibles avec voilà, des choses qui sont très mignonnes. Ça me dit bien, ça me donne très envie de jouer tout ça, mais c'est pas le sujet. Voilà, donc vous pouvez voir ça. Vous avez des jeux qui sont bien mis en valeur, hein, notamment Lego. Là, vous pouvez voir cette belle pub. Et vous avez différents types de jeux, donc c'est plutôt fait de manière assez assez maline. À voir à ceux qui sont intéressés hein, en replay ou en live, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous tente. En tout cas, les petites bandes annonces de jeux sont très très séduisantes. Voilà pour Apple Arcade. J'allais dire Apple iPad, mais c'est Apple Arcade. Mais c'est pas tout, hein, cette mise à jour 13.1, c'est pas uniquement justement Apple Arcade, il y a d'autres nouveautés. Donc je vais essayer de manière assez large de vous rappeler un peu les nouveautés. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a le mode, le dark mode. Le mode dark est disponible. Et alors plus que le dark mode, qui est très très bien en soi, il y a aussi la possibilité d'activer un mode automatique de changement de mode en fonction de si c'est la nuit ou le soir et que le soleil est couché ou la journée et donc du coup vous avez le soleil. Et donc en fonction, il va adapter le mode du système. Moi j'avoue que je l'ai activé. Alors, ce qui est sympa, c'est quand vous mettez à jour l'iPad, il vous pose la question dans quel mode vous souhaitez passer. Vous pouvez choisir d'opter pour le mode dark à ce moment-là. Mais pour passer en mode automatique, c'est-à-dire qu'il change en fonction de la journée, vous pouvez aller le faire directement dans les réglages. Voilà, donc ça, le mode dark est assez sympa. Et moi, je l'ai enclenché pour mon iPad. Il y a aussi pas mal de choses liées à la confidentialité des utilisateurs. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Notamment plus de contrôle hein, sur les informations personnelles, sur le partage de la localisation. Hein. Vous allez pouvoir notamment donner accès une seule fois à une application à votre localisation et ça ne sera pas indéfini. Et donc à chaque fois que l'application a besoin de la localisation, elle vous demandera la permission. Donc ça, encore une fois, ça va vous permettre un meilleur contrôle sur le partage de vos données. iOS 13 va également pouvoir vous dire quelle est l'application qui silencieusement traque votre localisation en background et vous faire une carte des points justement récoltés par l'application. Il y a également Apple qui va pouvoir dire faire du public shaming, donner la honte aux développeurs quand une application, notamment, vous faire des phrases du genre « cette application a utilisé 40 fois la localisation en background dans les deux derniers jours » et vous montrer une carte. Donc ça, je pense que ça fait pas mal peur aux développeurs, et Facebook a même partagé un blog post pour dire combien la confidentialité était importante pour eux. Donc ça, c'est intéressant. iOS 13 aussi, autre information intéressante pour la confidentialité, iOS 13 bloque le Bluetooth scanning par défaut dans les applications. Alors qu'est-ce que c'est le Bluetooth scanning ? Bah, tout simplement, il y a beaucoup d'applications qui scannent pour les alentours pour repérer des accessoires Bluetooth et comparer avec une base de données d'appareils Bluetooth à travers le monde. Et tout simplement, c'est une manière détournée de récupérer la localisation. Voilà, donc c'est vraiment détourné. Et ça, vous pouvez du coup contrôler cette permission. Ça n'empêchera pas vos devices Bluetooth, vos objets Bluetooth de fonctionner. Vous aurez toujours votre casque qui sera appairé et que vous pourrez utiliser, même si vous bloquez le Bluetooth scanning. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, ça va donner plus de contrôle. Je pense que pour tous les SDK publicitaires aussi, ça va pas mal perturber leur business model. Ce sont généralement des donc les applications pour gagner de l'argent incluent des SDK publicitaires pour afficher de la pub dans les applications, et souvent ces SDK, pour pouvoir faire du ciblage publicitaire, vont utiliser des moyens plus ou moins louches et plus ou moins détournés pour récupérer la localisation et tout simplement faire du meilleur ciblage publicitaire. Et donc là, généralement, c'est là où ce sont les premiers touchés sur quand les restrictions sont un peu plus dures. Voilà. Autre nouveauté, Apple a ajouté enfin son sign-in with Apple, se connecter avec Apple. Vous savez, cette manière de se connecter. Donc, on va voir si cette fonctionnalité va perturber la connexion, le login Facebook, le login Google, etc., qui sont déjà très, très en place. On va voir si Apple arrive à se déployer sur ce marché. Mais la force de frappe d'Apple avec tous les devices disponibles et l'obligation aux applications de devoir proposer le sign-in with Apple, ça va quand même être assez impressionnant. On va suivre en tout cas très très près. Après, il y a plein de petites améliorations. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce qu'il me reste pas mal d'articles. Pas mal de petites améliorations comme des animations qui sont plus rapides. Vous avez aussi le clavier. Donc, quand je parle des animations, c'est notamment tout ce qui est swipe, ouvrir des applications, fermer des applications. Tout ça, ça a été un petit peu plus accéléré. Donc, comme ça, c'est plus fluide. Vous avez au niveau du clavier également qui supporte le swipe pour taper. Donc vous savez, vous pouvez tout simplement toucher plusieurs touches en bougeant votre doigt sans lever le doigt. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps sur Android. Enfin, le clavier Apple le supporte. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les claviers Android, vous devriez être content. Vous avez aussi l'écran de partage, le partage Apple qui a évolué. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en chose vraiment importante? Donc Apple Arcade, je vous en ai parlé. L'application photo aussi a pas mal évolué maintenant. Vous avez quatre onglets disponibles. All photo, vous avez toutes les photos, vous avez année et vous allez pouvoir les gérer en année, mois, semaine, etc. et qui va classer automatiquement vos photos. Voilà, vous allez retrouver vos dossiers et tout. Il y a des améliorations également sur l'application Maps, sur l'application Messages, sur l'application Health. Je ne vais pas tout vous détailler. L'application Find My Phone et Find My Friends est dans une seule application qui s'appelle Find My maintenant. Mail, Notes et Safari ont reçu aussi quelques améliorations. Voilà, donc pas mal de petites choses. C'est quand même, iOS 13 va quand même améliorer pas mal de choses, et notamment sur la productivité et le multitasking, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et pour justement permettre aux utilisateurs de mieux comprendre qu'est-ce que sont les nouvelles possibilités avec iPadOS pour le multitasking, ils ont mis en place des petites vidéos. qui montrent, qui font la démo tout simplement. Donc là, vous avez le slide over, hein, et vous avez donc des petits tutoriels qui vous montrent comment utiliser le slide over. Donc comment on peut ajouter des applications au slide over, comment on peut visualiser les apps, comment on peut faire passer une application de slide over en full screen. Et vous avez donc des petits tutoriels très très simples et très efficaces pour faire la démonstration de ça. Voilà, je vous le montre un petit peu à l'écran. Donc en effet, donc il y a le tutoriel sur le slide over, il y a le tutoriel sur le multitasking avec le split view. Et il y a également le tutoriel sur le texte, comment éditer du texte avec des gestes. Donc ça, encore une fois, c'est très, très intéressant. Comment taper plus rapidement sur l'iPad avec le Quick Path. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, l'amélioration du clavier. Voilà, donc pas mal de petites démos. Et ça, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est assez malin, hein, pour Apple de partager ce genre de petits tutoriels, et ça permet d'améliorer la productivité. Et encore une fois, hein, la démarche d'Apple, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il démarre de quelque chose de simple et il l'emmène vers quelque chose de plus professionnel, plus compliqué, avec plus de possibilités pour ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, au départ, c'est simple. On enchaîne avec Free. Qu'est-ce qui se passe comme nouveauté du côté de Free ? Eh bien, tout simplement, Free a lancé une nouvelle box 4G+, hein, qui permet aux zones non couvertes par le très haut débit d'avoir une bonne connexion Internet. Donc ça va être quand même bienvenu, hein, pour pas mal de zones qui sont pas très, très bien couvertes. Donc ça, ils l'ont annoncé hier, tout simplement. Et ça s'adresse notamment aux personnes qui n'ont pas accès au très haut débit fixe, qu'il s'agit de fibres, de VDSL ou de bon débit en ADSL de plus. Voilà, donc la box 4G propose, donc comme certaines offres, hein, de la concurrence, de proposer une meilleure connexion 4G dans des zones coincées dans un Internet d'un autre siècle, et d'avoir un meilleur débit, quoi. Donc pour 29,90€, Free évoque des débits de 320 Mbps théoriques, soit 40 MO secondes en téléchargement, la possibilité de connecter jusqu'à 64 appareils en même temps, 32 sur chacune des bandes Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, et vous avez un quota à respecter de 250 gigas par mois. C'est déjà pas mal, à voir un petit peu de quoi vous avez besoin, mais c'est déjà pas mal. Et après ces 250 gigas, le débit sera automatiquement réduit. La box en elle-même, il s'agit d'une box 4G+ de Huawei, et il paraît qu'elle a de très très bonnes critiques sur Frandroid. En tout cas, ils ont fait un test de la box et a priori, c'est pas mal. Autre chose intéressante, la box est commercialisée avec une période d'essai de 1 mois, satisfait ou remboursé. Donc en effet, pour les personnes qui ne sont pas sûres de leur usage et de voir si les 250 gigas vont suffire, etc., vous pouvez juste souscrire et tester pendant 1 mois et satisfait ou remboursé. Donc ça, c'est pas mal. Et en termes de éligibilité, bah ça, c'est la plus grosse question, hein, puisqu'en fait, on se demande qui va être éligible. Donc Numérama, eux, ils ont essayé de tester plusieurs adresses sans succès. Alors sur la page du site de Free, hein, justement, il mentionne que la page du site de Free parlait d'un village dans le sud de la France. Donc tout simplement, ils ont essayé de chercher des adresses dans ce village du sud de la France pour vérifier s'il était couvert et éligible par cette offre. Et ils n'ont pas réussi à trouver d'adresses couvertes et éligibles avec cette offre. Et quand ils se sont adressés au service de Free, et ben tout simplement, Free leur a communiqué 4 rues bien spécifique de ce village qui était éligible à l'offre, à la nouvelle offre de Free. Donc ça a l'air quand même assez limité, à voir si ça sera grand public, mais ça me pose des doutes un petit peu sur l'éligibilité et le succès de cette offre. Mais voilà. Voilà pour Free et son annonce de box 4G. On termine avec deux dernières news et on va s'intéresser sur le sujet de l'environnement et de l'industrie du jeu vidéo. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport entre les deux ? Eh bien, il y a un vrai rapport, hein, tout simplement à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le climat. Une vingtaine d'entreprises de l'industrie du jeu vidéo, dont les plus grands, hein, Sony, Microsoft, Ubisoft, ont annoncé des mesures précises pour rendre leur plateforme plus éco-responsable. Donc il y a plusieurs initiatives, notamment pour Sony réduire l'empreinte carbone de la PlayStation 5, hein, de la PS5. Et donc ça se passe dans le cadre du programme Playing for Planet de Sony. Et donc, ils vont introduire un mode veille, notamment, qui est beaucoup plus performant que celui de la PS4. Ils disent notamment, Sony, que si seulement 1 million d'utilisateurs activent cette fonction, elle permettrait d'économiser l'équivalent de la consommation moyenne d'électricité de 1000 foyers américains. Ils ne disent pas sur quelle durée de temps. Donc, c'est un peu une phrase un peu inutile, on va dire. Moi, ça m'a fait sourire. Mais voilà, en tout cas, ça fait rêver. En tout cas, on ne peut que féliciter ce type d'initiative. Mais voilà, il faut vraiment faire des efforts là-dessus. Ils ont également donné des détails sur l'empreinte carbone des différents services de jeux, voilà, et également des efforts pour faciliter la production de jeux sur le thème du développement durable, pour sensibiliser aussi le public à ce type de problématique. Du côté de Microsoft, ils préparent un programme expérimental pour produire 825 000 consoles Xbox avec une empreinte carbone neutre. Chapeau. L'objectif est bien sûr de réduire le taux d'émission de carbone de 30% sur la chaîne d'approvisionnement dès 2030. Côté français, hein, il faut quand même le mentionner, Ubisoft de son côté va produire un packaging dénué de plastique pour les prochaines versions de Football Manager. Donc tout ça, encore une fois, on est à l'échelle de tests, mais ce sont des initiatives qui sont très très intéressante. Donc c'est pour ça que je voulais quand même le mentionner ce matin, et bravo aux sociétés qui s'engagent sur ce genre de choses. On termine avec un événement qui va se dérouler aujourd'hui, puisque c'est l'événement de Amazon Alexa Hardware Event, qui se déroule ce mercredi, et il y a trois choses auxquelles on peut s'attendre sur l'événement qui va se dérouler aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien notamment, vous savez que Amazon mise beaucoup sur ses speakers, sur ses devices Echo, pour tout simplement déployer encore plus Alexa, hein, son assistant vocal, qui est quand même dominant sur le marché, peut-être un peu moins en Europe, et c'est justement un problème, parce que l'Europe est quand même sous le coup de la dominance de Google, hein, en termes de services de moteurs de recherche, etc. Mais voilà, Amazon, du coup, essaye de se muscler, hein, pour déployer Alexa. Et notamment, ce qu'on peut attendre, c'est une paire d'écouteurs qui fonctionnent du coup avec Alexa et qui vont aller un peu plus loin que juste raconter des blagues, donner le temps, les prévisions météo ou jouer de la musique. Ils vont notamment pouvoir inclure des trackers pour la santé et pouvoir partager les statistiques fitness. Donc vous pouvez imaginer partir avec vos écouteurs Alexa et pouvoir écouter de la musique et pouvoir avoir un capteur un peu plus précis. Alors attention, tout ce que je vous dis, c'est encore à l'étape de rumeur, il n'y a rien de confirmé, donc à prendre avec des pincettes. Voilà, donc ça va être assez sympa, et ça va être du coup notamment à destination des sportifs, évidemment. Donc ça va aller plus loin que les capacités aujourd'hui des écouteurs ou casques sur le marché, comme les Bose Quiet Comfort 35.2 ou les Jabra Elite Active 65T, qui ne traquent pas aujourd'hui les informations de santé de manière indépendante, quoi. Voilà. Autre chose à laquelle on peut s'attendre, on en a parlé la semaine dernière, hein, mercredi dernier, c'est qu'Amazon a annoncé un nouveau service de streaming de musique HD. Donc, qui dit meilleure qualité dit aussi, est-ce qu'on va avoir une enceinte de meilleure qualité, un Echo qui va pouvoir justement répondre aux besoins, aux nouveaux besoins créés avec ce service de streaming de musique HD. Donc, ça aussi, c'est un des produits sur lequel on peut auquel on peut s'attendre, en tout cas sur l'annonce lors de l'événement d'aujourd'hui. A priori, l'événement va être, cette annonce d'enceinte de meilleure qualité pour servir le nouveau service de streaming de musique HD d'Amazon va être un des produits phares annoncés à cet événement aujourd'hui. Le but, hein, c'est qu'il puisse être plus compétitif, notamment avec le Sonos One, sur la capacité de délivrer de la bonne qualité de musique et de son en général. Et puis enfin, la dernière chose à laquelle on peut s'attendre, c'est pas un produit, c'est pas un service, mais c'est tout simplement le focus sur la confidentialité. On l'a vu avec iOS 13, iPadOS et compagnie, hein, c'est quand même le focus des sociétés aujourd'hui, c'est un peu obligatoire, surtout avec tous les bad buzz qu'il y a eu autour de ces enceintes qui écoutent les utilisateurs. Donc attendez-vous à avoir un gros focus confidentialité pour Amazon à l'événement d'aujourd'hui. Je pense que Jérôme vous en parlera dans le mug de demain. Il est 8h41. Avant de passer à la tartine de Marion, je vous propose de faire une petite pause sponsor sur cette émission. Et donc, on va parler donc du mois Shadow à gagner toutes les semaines. Donc, vous savez que Shadow est le sponsor de l'émission Le Mug. Un grand merci à eux. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore mon mug Shadow, mais j'ai quand même mon abonnement Shadow. Voilà. Et donc, si vous souhaitez gagner et tester un mois de Shadow, donc le PC dans le cloud, hein, qui vous permet d'avoir un PC avec des très très bonnes capacités à distance, vous pouvez participer au concours. C'est très très simple. Il suffit de suivre le compte Shadow France sur Twitter, tout simplement. Et puis, vous pouvez poster un tweet. Je veux gagner un Shadow PC avec le mug Naotech, le mug de Naotech en hashtag et Shadow PC en hashtag également pour jouer à, et vous pouvez préciser à quel jeu vous souhaitez jouer. Ça donne un peu une idée de quel est le succès des jeux un peu sur en ce moment. Ou même utiliser un logiciel. Hein, y a pas de, c'est pas limité au game. Voilà. Le vendredi, on annoncera le gagnant de la semaine parmi tous les tweets partagés durant la semaine. Voilà. Donc c'est très simple et vous allez pouvoir, voilà, vous avez le petit Nightbot qui vous aide à savoir tout ce qu'il faut faire et le modèle de tweet à envoyer pour tenter de gagner votre mois gratuit. Sur ce, je vous propose d'enchaîner avec la tartine de Marion. Et voilà, on enchaîne avec la tartine de Marion. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh ben, on va parler un petit peu des Emmy Awards. Et oui, les Emmy Awards se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. Et ça donne un petit peu le pouls de l'industrie du streaming, pas du streaming, mais des séries télévisées en tout cas. Alors pourquoi je vous parle de ça, hein ? Je vais peut-être présenter un petit peu qu'est-ce que c'est la tartine de Marion, parce que c'est quand même, ça reste nouveau, c'est que le deuxième format de la tartine de Marion officiellement. Alors tout simplement, de quoi il s'agit ? Eh ben, c'est un moment où je vais profiter de cet espace, de ce moment, pour vous parler de l'actualité streaming. Quand on parle de streaming, ça peut traiter notamment de l'actualité film, série, audiobook, musique, etc. Ou toutes les plateformes qui servent ce contenu en streaming. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses. L'actualité est dense de plus en plus en ce moment. Et donc, je trouvais que c'était une bonne opportunité d'avoir un petit focus sur ce sujet. En tout cas, comme c'est assez nouveau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous qui nous écoutez en replay ou qui me regardez en live, n'hésitez pas à dire et à faire des retours sur est-ce que ça vous plaît, oui ou non, dans les commentaires de l'émission. On essaye d'être à l'affût un peu de vos retours spécifiquement en ce moment puisque c'est tout nouveau comme formule. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les Emmy Awards, hein, cérémonie américaine qui s'est donc déroulée sur la chaîne Fox entre dimanche et lundi pour nous, hein, puisque c'est à l'heure américaine, et donc qui va récompenser les différents programmes de séries télé majeures qui ont marqué l'année 2019-2018. Voilà. Donc, on va retrouver notamment HBO, Amazon, Netflix, etc., qui sont, donc ces trois services typiquement sont les grands gagnants de la soirée. Mais ce qui est encore plus intéressant, et là, je vous encourage à lire l'article de The Verge sur le sujet, c'est que... au-delà de voir les récompenses, et on en parlera justement par la suite, c'est intéressant aussi de regarder les publicités. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des publicités qui ont été diffusées lors du programme des Emmy Awards rediffusés sur la Fox? C'est un peu quels sont les services qui sont mis en avant. Parce que c'est évidemment un moment clé pour les services de streaming et de séries télé. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les spots commerciaux ont diffusé notamment le service Apple TV+, et Disney+, Amazon Prime Video, Hulu et Netflix. Donc là, quel est le point commun entre tous ces services, Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu et Netflix? C'est que ce sont tous des services de streaming. Voilà, on n'est pas sur du câble, etc. Donc tout ça, c'est des services de streaming. Ça montre un petit peu qu'il y a un vrai virage amorcé et que la concurrence entre la TV télé traditionnelle, le câble et les services et les plateformes de streaming... sont vraiment oui les spots commerciaux, merci pour la correction, désolé pour la petite faute de français, mais voilà, ça montre un petit peu l'évolution un peu du marché du streaming des séries télé surtout et des programmes de séries télé. Qu'est-ce qu'a fait Apple notamment pour ces spots publicitaires? Bah, tout simplement, ils ont joué des petits teasers très courts sur une sélection de leurs programmes qui seront mis à disposition dans leur service, nouveau service Apple TV+, disponible au 1er novembre prochain. Disney, lui, a réussi à avoir le premier spot commercial de la soirée, hein, ce qui est quand même un des plus chers et un des plus enviés et un des plus convoités, hein, pour la pub. Et ils ont donc joué une pub à destination de leur service Disney+, qui est lancé et qui va annoncer les précommandes qui vont être bientôt disponibles. Voilà pour Disney+. Voilà, donc, et puis il y a eu pas mal de blagues, hein, durant la soirée, notamment avec le comédien Thomas Lennon, hein, qui a commencé la soirée justement en annonçant les récompenses, en faisant une blague sur la bataille qui se déroule entre HBO Now à 14,99€ l'abonnement et Netflix à 12,99€ en prix. Et donc, au lieu de parler des récompenses entre séries, la vraie bataille en fait qui se déroule, et c'était totalement vrai à cette soirée des Emmy Awards, c'était la bataille des services de streaming, puisque HBO, c'est HBO Now en termes de services. Donc là, c'était très très bien vu de la part du comédien. Voilà, donc qui a gagné quoi? Eh ben, HBO remporte la soirée, hein, avec je fais de l'anglicisme, 9 récompenses, mais suivies de très près, hein, par Amazon avec 5 récompenses et puis Netflix 4 récompenses. Voilà. Et donc, il y a vraiment un cas, hein, contre la télévision traditionnelle qui a été fait avec ces services de streaming Netflix et Amazon qui talonnent de très très près les autres services. Et donc, ça on dirait un peu la fin d'une ère télévisée, quoi. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Cette semaine, pour vous donner une idée, hein, de la pression mise sur la production des shows télévisés, cette semaine seulement, NBC, ABC, Fox, CBS ont débuté 64 programmes télévisé, ce qui est assez impressionnant, hein. Donc c'est un peu la course à la production de contenu. On verra comment ça évolue. Voilà. Mais assez parlé peut-être des plateformes de streaming. Concrètement, qui a gagné quoi? Donc, je vais essayer de vous retrouver le récap un peu plus complet. Voilà, donc la liste complète. Donc, en série dramatique. Série dramatique qui est la récompense la plus convoitée de la série, hein, qui est la plus attendue. Qu'est-ce qui gagne Game of Thrones pour la dernière saison de la série, qui était pourtant controversée, hein, par rapport à l'accueil du public? Et ben, c'est Game of Thrones qui remporte la statuette, avec en face, comme autre série, Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, qui avait eu quand même pas mal de succès pour sa seconde saison. Seconde saison ou troisième saison? Je crois que c'est seconde saison. Ozark, Pose et Succession. Donc voilà, c'est Game of Thrones qui l'emporte. Ça clôt encore une fois un grand chapitre, hein, et notamment c'est aussi la fin pour HBO d'un programme phare pour eux, c'est aussi un risque, hein. C'est la fin de Game of Thrones, c'est la clôture de la série, et ça célèbre un petit peu le succès général de cette série extrêmement cinématographique, on va dire, dans sa manière d'être produite, dans sa qualité, ouais, de production, sa complexité narrative. Donc voilà, ça clôt un petit peu le chapitre Game of Thrones. Et là, l'époque Game of Thrones qui a quand même marqué un vrai tournant au niveau des séries télévisées quand même, hein. Pour l'ensemble de la série, je veux bien, mais spécifiquement pour la dernière saison, faut pas déconner, hein, Game of Thrones. Je vois des commentaires un peu, énervés dans la chatroom avec Franck A qui nous sort son commentaire. Bah en effet, hein, goût et couleur, voilà, ça varie. Mais en tout cas, on ne peut nier l'impact de Game of Thrones à l'échelle plus large sur le marché des séries télé. Et puis ensuite, en meilleur acteur, qui remporte? C'est Billy Porter pour son rôle dans Pose, premier acteur ouvertement gay, hein, qui est célébré et qui gagne avec cette statuette, qui est récompensé pour son rôle. Bravo, il était temps qu'on ait enfin un acteur qui soit célébré, et c'est surtout célébré pour son interprétation, c'est pas pour son statut, mais c'est pour son interprétation. Et Pose, alors moi personnellement, j'ai pas regardé cette série, mais j'en ai entendu des très très bons retours, donc ça me donne très très envie de regarder. Meilleure actrice, je vous en parlais tout à l'heure, meilleure actrice, c'est Jodie Comer qui l'emporte, c'est l'une des deux héroïnes de Killing Eve, cette série qui a été produite notamment par Phoebe Waller-Bridge, qui est plus connue pour la série et son rôle phare dans Fleabag. Elle est aussi impliquée dans Killing Eve et elle est allée chercher justement la statuette pour Killing Eve. Super série dramatique que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, hein, qu'on m'avait conseillé d'ailleurs dans le Slack. C'est les contributeurs, hein, dans le Slack Naotech qui m'avaient conseillé, puisque j'avais beaucoup aimé Fleabag, d'aller regarder Killing Eve. Un grand merci à ceux qui me l'ont conseillé. Et donc Jodie Comer qui a volé la vedette à sa co-star Sandra Oh, qui elle aussi était nominée pour la même récompense, hein, puisque la série a deux héroïnes phares, c'est ces deux actrices. Mais en tout cas, la performance de Jodie Comer, il était temps qu'elle soit saluée. Première récompense pour Killing Eve et pour l'actrice, c'est pas volé en tout cas. Et donc elle remporte. La récompense devant Emilia Clarke, Viola Davis, Laura Linney, Mandy Moore, Sandra Oh et Robin Wright. Voilà. Le meilleur acteur, c'est Peter Dinklage qui le remporte. Vous savez, c'est Tyrion dans Game of Thrones. Il le remporte pour Game of Thrones. Là, encore une fois, jolie reconnaissance pour l'acteur avec un speech très, très émouvant. Je vous encourage à aller trouver les extraits sur YouTube. Ça sera très, très facile à trouver, mais il a fait un speech vraiment très émouvant. Et bravo à lui pour cette reconnaissance. Je crois que c'est pas la première fois, hein, qu'il remporte un Emmy pour son rôle dans Game of Thrones, mais en tout cas, c'est important de reconnaître sa performance. Meilleure actrice dans un second rôle. Donc ça, c'était la récompense pour Peter Dinklage, c'est meilleur acteur dans un second rôle. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Julia Garner qui l'emporte pour Ozark, série aussi qui a été plusieurs fois récompensée, et notamment la réalisation d'épisodes, c'est Jason Bateman qui est et acteur, et également réalisateur et même producteur, hein, je crois, de la série Ozark, qui est disponible sur Netflix. Enfin, je crois, hein, Netflix ou Amazon Prime, mais je crois que c'est Netflix. Voilà, donc belle récompense. Donc comme je disais, meilleure réalisation, c'est Jason Bateman pour la même série Ozark, hein, pour l'épisode Reparations, puisque c'est lui qui l'a réalisé. En termes de meilleur scénario, on est sur la série Nobody is Ever Missing, et donc pour le scénario de l'épisode Succession, qui a été écrit par Jesse Armstrong. Alors là, inconnu au bataillon, je ne connais pas cette série, mais ça me donne envie d'aller jeter un œil. Série comique est là, très 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 contente. Série comique, qui est-ce qui remporte la statuette? Eh ben, c'est Fleabag. Je vous l'avais dit, ça a été mon gros 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 coup de cœur de 2019. J'ai découvert cette série sur le tard avec la seconde saison qui avait beaucoup beaucoup fait parler d'elle. À savoir, Fleabag, ça a un destin un peu étonnant, hein, puisque elle avait été diffusée, c'était sur une chaîne anglaise. Elle avait été produite en 2016, hein, par donc Phoebe Waller-Bridge, qui a écrit, je sais pas si elle a réalisé, mais en tout cas produit et le rôle principal de la série, hein, pour Fleabag. Ça avait démarré d'un sketch de Phoebe Waller-Bridge et ça avait été étendu sous format de série avec la saison 1, qui n'avait pas rencontré un franc succès en 2016, qui a été récupérée par Amazon Prime Video et qui lui a offert donc une seconde saison. Qui a énormément fait parler d'elle et qui a permis de faire découvrir au grand public cette série à un humour anglais noir caustique, excellent, et qui parle des déboires d'une anglaise avec un humour vraiment irrésistible. Moi, ça a été vraiment mon grand coup de cœur, une vraie révélation, et je suis vraiment ravie que Phoebe Waller-Bridge soit récompensée. Même si ça veut dire détrôner The Marvelous Mrs. Maisel, que j'adore également et qui est également sur le service Amazon Prime Video. Mais on va se dire, Marvelous Mrs. Maisel avait déjà remporté la statuette l'année dernière. Donc bon, on va dire OK. Mais en tout cas, Fleabag, bravo, bravo. Meilleur acteur, c'est Bill Hader pour la série Barry. Meilleure actrice, c'est Phoebe Waller-Bridge, encore une fois pour Fleabag. Elle a collectionné les statuettes à cette soirée et tant mieux. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Tony Shalhoub qui joue le père de l'héroïne dans The Marvelous Mrs. Maisel. Et il faut dire qu'il est quand même assez excellent, hein, dans son rôle. Donc pas volé, hein, pour lui et très très contente pour l'acteur. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est encore une fois The Marvelous Mrs. Maisel qui l'emporte. Alex Borstein qui joue le sidekick de l'héroïne dans The Marvelous Mrs. Maisel. Encore une fois, pas volée parce que sa performance est juste incroyable. Très très bonne actrice. Meilleure réalisation, encore une fois, c'est Fleabag qui l'emporte. Meilleur scénario, c'est Fleabag également. Quand je vous dis, c'était un peu l'année Fleabag cette année. À savoir que d'ailleurs, la série n'aura pas de saison 3. Donc, c'est un peu la dernière année où il pouvait célébrer et louer le talent un petit peu de cette série. Donc, encore une fois, une belle soirée pour Phoebe Waller-Bridge. En mini-série et téléfilm, c'est Tchernobyl de HBO, hein, qui l'emporte pour la meilleure série limitée. Le meilleur acteur, c'est When They See Us. Donc c'est encore une fois un mini-série et téléfilm avec Jarell Jerome qui remporte. Meilleure actrice, c'est Michelle Williams, actrice que l'on connaît bien, hein, pour Fosse Verdon. Là encore une fois, je ne connais pas. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Ben Whishaw, A Very English Scandal. Donc tout ça, ce sont des choses que je ne connais pas. Hein. Meilleure actrice dans un second rôle, Patricia Arquette, The Act. Meilleure réalisation, Tchernobyl. La seule que j'ai regardée là, c'était dans celles qui ont été nominées. Les seules que j'ai vues, c'est Sharp Objects, qui était très intéressante, et Tchernobyl, qui était passionnante aussi, même si très très dure. Et les autres, je ne les connais pas, donc je vais pouvoir me renseigner un petit peu pour voir s'il y a des programmes qu'il faut que je rattrape. Et donc voilà, Tchernobyl a encore remporté la meilleure réalisation, meilleur scénario, voilà. Donc vous avez un peu le tour d'horizon des récompenses de cette soirée, mais en effet, il y a quand même des grandes tendances, hein, qui se voient. Mindhunter a rien récupéré, je suis dégoûtée. C'est une bonne observation, en effet. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé Mindhunter, mais elle est un peu traditionnelle comme série. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas récompenser les séries traditionnelles, mais il faut quand même remarquer qu'elle est un peu traditionnelle. Voilà. Ce qui est intéressant et autre réflexion qu'on peut étendre, c'est que plus les Emmy vont s'étendre aux services de streaming, donc là, vous avez vu, hein, entre Netflix, Amazon Prime Video, etc. Mais là, il n'y a que ça. L'année prochaine, on aura quoi? On aura Apple TV+, on aura Disney+. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de services qui sont sur le point de se lancer. On a Peacock également. Donc, on a beaucoup, beaucoup de services qui sont sur le point de se lancer. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Emmy l'année prochaine? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les consommateurs comme vous et moi qui regardez les séries? Ça veut dire que quoi? Il faudra avoir 36 000 abonnements différents, enfin 5 abonnements différents pour être dans le coup au niveau des séries. Est-ce qu'on est prêt à dépenser 15 € pour chaque service de streaming pour pouvoir être à la pointe des dernières séries? Est-ce que ça veut dire que les Emmy vont du coup être moins grand public et du coup s'adresser plus à la profession? Et est-ce qu'il y a vraiment un sens là-dessus? Parce que du coup, bah, plus ça va aller, moins les gens vont se permettre de pouvoir suivre Amazon Prime Video, Netflix, Peacock, Apple TV+, etc. Donc ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir avoir un catalogue intéressant et pouvoir échanger, parce que c'est aussi des points communs culturels, ça fait partie de la culture commune, pop culture d'une société également, de pouvoir discuter séries, acteurs, etc., etc. Et donc, du coup, bah, avec cette nouvelle tendance, ça va un peu bouleverser un peu notre rapport aux séries. Donc, ça sera intéressant l'année prochaine de voir s'il y a une évolution, justement, avec la prochaine cérémonie des Emmy. Il est 9h01, je vous propose de terminer là pour l'émission et on va rester 5 minutes ensemble pour prendre vos questions et discuter des sujets du jour. Très bonne journée à ceux d'ailleurs qui ne peuvent pas rester. On enchaîne avec les camps de fac. Et voilà, c'était la fin de l'émission. Je remercie à tous d'avoir regardé ou écouté l'émission du Mug, ce numéro 9, en ce mercredi 25 septembre. J'espère que l'émission vous a plu. Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le prochain épisode. On vient de parler de série. Et du coup, je vais prendre quelques questions. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de questions platinium pour moi ce matin. Non, pas de questions platinium. Merci beaucoup, Samuel, pour ton retour. Donc, je vais rester 5 minutes avec vous, top chrono. Est-ce que vous avez des questions sur les épisodes du jour ou autre chose, hein? Enfin, sur les articles du jour ou autre chose. Alors, je regarde un peu vos commentaires. J'ai raté un bout, c'est toujours les Grammys. On parlait des Emmy, Vaya. Franck me dit que When They See Us, c'est bien. Je vois un petit emoji avec les mains qui applaudissent. Et il faut vraiment que je regarde. Ouais. Nommer, le verbe nominer n'existe pas. Oui, merci beaucoup Vincent pour la correction. Toutes mes excuses pour la petite faute. C'est vrai qu'on fait toujours une erreur. C'est les nominations et les nommés pour les acteurs et séries. Alors, je regarde un peu vos commentaires. C'était passionnant. Bon, ben, ravi. Oui, whisky. Ben, whisky. Alors, à chaque fois, je me trompe. Il faut que j'aille plus vers là pour vous le montrer. Ah, mais il est mince. Il n'est pas sur son arbre à chat. Alors là, breaking news. Le chat n'est pas sur son arbre à chat pendant l'émission. Je suis choquée. Je ne sais pas où il est. Il fait sa vie. Alors, avez-vous avancé sur Dark Crystal? Ah bah non, entre lundi et aujourd'hui, non. Il nous reste 3 épisodes, on les regardera, je pense, ce week-end. Tu cherches toujours des professionnels à interroger pour Alan. Oui, je vous avais partagé sur le Slack qu'on cherchait des utilisateurs pour faire des petits tests utilisateurs pour Alan. Non, là, je pense que c'est terminé. C'est pas moi personnellement qui gérais, mais c'est une collègue. Non, je pense que là, c'est bon. Je vous ferai savoir, j'hésiterai pas à partager de nouveau sur la communauté, sur le Slack, quand on a besoin de tester de nouveau. On a régulièrement besoin de tester le produit, donc ça arrivera très vite. Faut-il mettre à jour manuellement iPadOS ou attendre? C'est comme tu veux, Sultan. Tu peux la déclencher toi-même ou elle va se faire automatiquement. Ça dépend ce que tu as aussi paramétré sur tes réglages. Les Emmy, c'est comme les Oscars, tu peux pas tout voir. Oui, c'est sûr. Mais c'est encore de plus en, ça va être de plus en plus vrai dans les temps à venir, je pense. Pour regarder tes séries, t'es plutôt iPad, Orti, Apple TV, Chromecast. Rien de tout ça. en fait, tout simplement, j'ai, vous voyez, j'ai une télé. Hop. Depuis décembre dernier, j'ai une télé et en fait, elle fonctionne avec, avec Android. Et donc, je peux lancer mes séries directement de là. Sinon, j'utilise Chromecast. Et puis sinon, dans le train, j'utilise mon iPad. Voilà. Sonos et Ikea dévoilent une lampe enceinte pour la chambre. Bien ou pas? Ben écoute, Laurent, j'ai pas vu la news, donc je peux pas te dire. Alan, en Belgique, c'est prévu. Oui, tout à fait, Eloïc, c'est prévu. J'ai pas de date précise à te, te communiquer, mais les prochains marchés, c'est la Belgique et l'Espagne. Impatient de se lancer là-bas. As-tu commencé la série Netflix Spy? Non, Ellie, pas du tout. Je ne l'ai pas vu passer d'ailleurs. Est-ce que tu l'as regardé, toi? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses hein, si tu l'as regardé. C'est une Sony avec Android? Non, c'est une Samsung avec Android, Fred Tess. Est-ce qu'il y a encore quelques petites questions pour ce matin? Comment vous avez trouvé la tartine ce matin sur les Emmy Awards? Est-ce que c'était intéressant? Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Alors, Ellie me dit qu'il a regardé la série Spy sur Netflix, les 6 premiers épisodes, et ça a l'air pas mal. D'accord. J'ai vu chez des gens les produits de collaboration Sonos et Ikea, et apparemment, par contre, ça ne se connecte pas au système Sonos. Ah, c'est étrange. Choix étrange. Véa me dit que c'était très intéressant. Lof me dit que c'était top. Yves me dit qu'il n'est pas très série. Ok. Un peu long l'article. Ok. Ok, ok. Pour toi, c'était un peu long. Chris me dit, tu fais quoi avec ton Shadow? En fait, je fais pas grand-chose, pour être honnête. Je joue uniquement à Divinity Original Sin. Et il me faut un PC pour ça, parce qu'il n'est pas disponible sur Mac, ou il ne l'était pas à l'époque où je l'ai acheté. Et donc, j'utilise mon Shadow. J'avoue que j'utilise pas la pleine capacité de Shadow pour ça. Peut-on installer iOS 13 sur un iPhone 6 ? J'ai cité un petit peu, Jared, en début d'émission, la compatibilité. Je te conseille de regarder en replay l'émission, tu auras toutes les infos. Michaelina, oui, intéressant, j'ai noté des séries à voir. Bon, bah, j'espère que tu trouveras ton bonheur. En tout cas, si tu veux rire, Fleabag et Marvelous Mrs. Maisel, toutes les deux sur Amazon Prime Video, sont vraiment top. Franck, ah oui, très intéressant, mais bon, je suis un sérivore chronique, donc je ne suis pas très impartiale. Oui, je suis un peu pareil hein, là-dessus. Hein. C'est pour ça que je voulais en profiter pour vous en parler. Très bien, la tartine, ça aurait été encore mieux avec quelques incrustations screenshot de la cérémonie. Oui, tout à fait, Baron Maruton, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est quelque chose sur lequel je vais un peu plus travailler. J'ai juste pas eu le temps, en fait, ce matin. Comme le mug demande un peu plus de préparation... J'avoue, je ne me suis pas très très bien organisée. Et mon iPad a planté avec la mise à jour ce matin. Donc en fait, au lieu de préparer mes screenshots et mes extraits de la cérémonie, j'ai dû pallier à l'iPad. En effet, en fait, l'idée, c'est vraiment ce que je veux faire, comme j'avais fait pour The Boys la semaine dernière, c'est pouvoir justement agrémenter les news d'extraits, d'incrustations et tout. C'est quand même plus sympa. Fleabag n'a pas inspiré Mouche sur Canal+. Si, Love, tout à fait, tout à fait. Mouche est juste une version française de Fleabag. Mais alors attention, j'ai pas vu Mouche, mais j'en ai entendu des choses et c'est pas du tout la même qualité. Voilà. Ton Mac ne rame plus. Ah, Christophe, c'est parce que tu l'entends pas souffler, là. Mais en fait, j'ai optimisé certaines choses, j'ai fermé tous mes onglets pas nécessaires sur Chrome, j'ai quitté tous les logiciels pas nécessaires également pour m'assurer que ça fonctionne. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions et il est 9h09. Du coup, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi sur cette émission, sur cette émission de Le Mug. Et je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le prochain Le Mug. À très bientôt et c'est le générique de fin.